encore ma vie avec Hichem Ben Abbas Tarji, un gynécologue obstétricien à Casablanca, qui nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse au traitement hormonal de la ménopause. Est-il toujours d'actualité? Avant de vous laisser la parole à Asma, j'invite bien évidemment nos auditeurs à poser leurs questions sur notre application Lux Radio.
Alors la période de la ménopause se caractérise par l'arrêt de la fabrication par les ovaires des hormones de la reproduction, les œstrogènes et la progestérone. Conséquence, eh bien, les femmes ménopausées peuvent connaître des troubles qu'on appelle les troubles climatériques. Ces troubles peuvent s'accompagner de risques d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi, selon des critères bien précis, certaines femmes pourront avoir recours au traitement hormonal de la ménopause. Hichem Ben Abbas Tarji, le traitement hormonal de la ménopause, c'est pour qui ?
Les femmes qui souffrent d'un syndrome climatérique et bien sûr qui n'ont pas de contre-indication, mais qui souffrent de ce syndrome climatérique, de ces bouffées de chaleur, de cette ostéoporose, parce que c'est le meilleur traitement pour répondre à cela. Bien sûr, il peut avoir des effets, mais donc il faut bien choisir les femmes à qui il faut le proposer.
D'accord, justement, quelles sont les femmes qui ne peuvent pas justement avoir recours à ce traitement hormonal de la ménopause?
Avant de vous répondre à cela, j'aimerais vous remercier d'abord de ce sujet parce que c'est un dada. Et ce traitement, en fait, l'historique de ce traitement hormonal, comme vous l'avez dit, la ménopause est inéluctable et donc toutes les femmes seraient ménopausées, vont être ménopausées, sauf que avant, l'espérance de vie était, je dirais, nos grands-mères, l'espérance de vie était de 50-60 ans. Nos mamans, c'était peut-être 70 ans. Maintenant, l'espérance de vie, elle est presque... Pour les femmes marocaines, elle, je crois, de 78 ans ou 79 ans. C'est génial. Et donc, la ménopause, avant, on va vivre maintenant presque le tiers de notre vie. Elle va le vivre en ménopause. Et la ménopause a des symptômes qui sont variables, mais qu'on peut retrouver, donc, qui sont parfois invalidants. Les bouffées de chaleur, chez la plupart des femmes, bon, leur intensité peut être variable. Il y en a 20% qui vont dire non, c'est pas grave, ou 20% qui vont dire bon, c'est des bouffées de chaleur. Mais il y en a pour 20%, elles sont très invalidantes. Il y a aussi, comme vous le dites, le risque d'ostéoporose. Il y a aussi le risque d'accident cardiovasculaire. On meurt plus d'infarctus et de problèmes cardiaques à 60 ans, plus qu'avant, qu'à 50 ans. Parce que justement, les œstrogènes protégeaient contre l'athérosclérose. Alors, dans les...
Il dit ostéoporose, il dit aussi fracture, risque
oui,
de fracture,
l'ostéoporose,
etc.
L'ostéoporose aussi, donc je vous dis, on vit quand même...
Que ce soit clair.
La fracture du col du fémur, une fracture des tassements vertébrales, ça peut avoir une morbidité donc assez sérieuse. Alors, dans les années 90, on a commencé à prescrire ce traitement hormonal comme vraiment une cure de jouvence. Ah, c'est génial, ça a enlevé les
bouffées. Il y a aussi la sécheresse vaginale.
Oui, le sgume aussi, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Et donc, on commençait à traiter ça, mais c'était vraiment génial. Mais on prescrivait ça à tire-larigot jusqu'à une étude faite en 2001 par ce qu'on appelle la Women's Health Initiative sur plusieurs centaines de milliers de femmes et qui a vu que le THS, le traitement hormonal substitutif, avait des effets secondaires assez graves, notamment il augmentait le risque de cancer de sein, patatras. Et donc tout le monde, ah ça donne le cancer du sein, tout le monde a commencé à dire non, je ne veux pas, je ne veux pas de cette prescription. Et donc les chutes de ces traitements hormonaux ont beaucoup baissé. Je crois qu'on était à 20 millions de doses dans les années 90, à maintenant en France, je parle. Je crois qu'il n'y a que 2 millions ou 3 millions de...
Des chiffres marocains, peut-être ?
Non, je n'ai pas de chiffres marocains. Mais bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de prescriptions. Il faudrait que, justement, les gens consultent. Alors, donc, pour revenir à votre question, donc, à qui il est contre-indiqué ? Aux gens donc, qui ont des antécédents personnels de cancer du sein, donc c'est parce que c'est un traitement hormonal, donc cancer du sein, cancer de l'endomètre, tous les cancers hormonodépendants, antécédents de phlébite ou d'accident vasculaire cérébral ou d'accident cardiaque, parce que le traitement peut augmenter ce risque, et donc ça reste des contre-indications absolues pour le traitement oral, pour les traitements œstrogéniques. Sinon, s'il y a une infection hépatique grave, une hépatite virale active, donc avec des problèmes hépatiques. Mais sinon, donc on peut le prescrire à toutes les femmes qui ont une souffrance. Ce qui était génial par rapport à cette WHI, cette étude qui a fait peur, Bon, on est maintenant 20 ans après la WHI. Il y a beaucoup de critiques qu'on peut amener à la WHI, notamment qu'elle a été faite sur des femmes qui étaient déjà avancées, qui étaient très tarées, je dirais, qui étaient obèses, qui avaient déjà des accidents cardiaques, qui avaient qui étaient en ménopause depuis longtemps, plus de 10 ans. Et aussi, le traitement hormonal utilisé, c'est celui qui
Donc
était.
l'échantillon comportait en fait des femmes à
Il y
risque.
a beaucoup de biais. Oui, justement, il y a beaucoup de biais. Et notamment, les progestatifs qui ont été utilisés, c'était ce qu'on appelle des estrogènes conjugués équins, c'est-à-dire à partir d'urine de jument, et un progestatif assez de synthèse. Et on s'est vu par la suite qu'il y a d'autres études qui sont apparues, notamment en France, qu'avec des traitements progestatifs, avec des traitements d'œstrogènes naturels, ce qu'on appelle le valérate d'estradiol, et des progestatifs aussi naturels, la progestérone micronisée, qu'il y avait très peu de risques, il y avait beaucoup moins de risques d'utiliser ces traitements. Et donc, si vous voulez, la WHI, elle nous a juste fait peur, et elle a raison, c'est qu'on ne pouvait pas prescrire comme avant,
À tout
à
va.
tire-larigot, à tout va, tenez, voilà, c'est des hormones, c'est des pilules, c'est des bonbons. Non, il y a un risque. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les recommandations sont, en dehors des contre-indications, j'ai dit cancer du sein, cancer de l'endomètre, hépatite chronique
Évidemment.
active, eh ben, on peut le prescrire aux femmes qui vraiment souffrent de cette ménopause.
Hicham Benabastalgi, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Quelle va être l'action du traitement hormonal de la ménopause concrètement et donc quels en sont les bénéfices?
Alors, la ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est la fin des sécrétions hormonales ovariennes, notamment œstrogènes et progestatives. Et les œstrogènes sont importants parce que c'est une hormone trophique. Elle donne du dynamisme, elle multiplie les cellules. Et donc, elle a un effet sur tout. Elle a un effet sur le métabolisme osseux. Quand je dis métabolisme, c'est l'os qui est mangé et reconstruit. C'est constant. Donc, elle a un effet sur la peau, sur la
Donc ce
qualité de la
traitement est
peau.
fait d'œstrogène en fait.
Oui, tout à fait. Je dirais la ménopause. Les œstrogènes, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, après, la ménopause, qu'est-ce qu'on a? Et l'intérêt du traitement. La sécheresse donc cutanée, la sécheresse génitale, donc avec la sécheresse du vagin, et donc avec les douleurs lors des rapports sexuels, avec l'impossibilité de rapports sexuels, la sécheresse urinaire, la vessie s'atrophie, ça sèche, et donc ça donne des troubles urinaires avec ce qu'on appelle la polakyurie, la vessie neurologique, parce qu'il y a des troubles, justement, la vessie n'arrive pas à bien être nourri par ces œstrogènes. Le problème de l'athérosclérose, les œstrogènes protègent contre l'athérosclérose, à condition donc qu'ils soient donnés précocement pour le déficit cognitif. Pour l'intelligence, pour la maladie d'Alzheimer, on dit que, enfin, c'est pas encore prouvé, mais on pense vraiment que les œstrogènes préviennent aussi la maladie d'Alzheimer et les démences. Et donc, voilà ce qu'on voit à la ménopause. Et c'est pour ça que les œstrogènes, excusez-moi, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé aussi qui est souvent, c'est les bouffées de chaleur. C'est le terme, le symptôme qu'on voit le plus, c'est-à-dire c'est des bouffées vasomotrices où la femme va avoir soudainement très chaud, à point qu'elle a envie de se déshabiller parce qu'elle a justement très très chaud. Et puis elle sue beaucoup, elle peut suer, ça vient surtout la nuit et ça peut être invalidant. Et parce que ça va se reproduire plusieurs fois par jour. Et on a vu que donc la ménopause va avoir cette carence en œstrogène, ce manque en œstrogène, et donc l'apport d'œstrogène naturel va permettre de traiter ces symptômes.
Le traitement est fait uniquement d'œstrogène?
Alors en fait, quand on donne que des œstrogènes, il y a un risque de développer un cancer de l'endomètre. Et donc on donne un traitement juste à base d'œstrogène, associé à des progestatifs. Chez les femmes hystérectomisées, c'est-à-dire chez les femmes qui ont bénéficié donc d'une ablation de l'utérus, on ne donne qu'un traitement œstrogénique. On n'a pas besoin de rajouter de la progestérone. Les traitements, il y a différents types de traitements. Il y a des traitements combinés où c'est une pilule que vous allez prendre, un comprimé qui contient l'œstrogène et le progestatif. Il y a des traitements à la carte, je dirais, où vous allez prendre un comprimé d'œstrogène ou, pardon, une autre voie et un comprimé de progestatif.
D'accord. Alors, autre question, peut-on prendre ce traitement, donc le THM, pendant la période de préménopause comme un traitement préventif?
Non, parce que justement, la ménopause se définit comme l'absence de règles pendant au moins un an. Comme vous dites, elle est précédée par une durée justement de troubles du cycle, qui est très variable, qu'on ne peut pas quantifier. Enfin, on peut voir juste qu'il y a des troubles du cycle. Mais la préménopause se caractérise par une fluctuation des hormones. Mes maîtres me disaient, si on fait un dosage hormonal, ça ne sert à rien d'ailleurs, en préménopause, vous allez avoir les roulettes russes. Le matin, vous allez vous retrouver avec un taux très élevé, le matin, l'après-midi très bas, et le soir, des taux normaux. Et donc, le fait de prendre un traitement œstrogénique en préménopause va donner des signes d'hyperœstrogénie, parce que justement, vous avez encore une sécrétion résiduelle, elle est variable, elle fluctue avec le temps, mais elle peut vous donner des signes justement de surdosage en œstrogène. Donc, en préménopause, on préconise essentiellement les progestatifs pour pallier à cette hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait déjà un excès d'œstrogène. Et quand on est en ménopause, à ce moment-là, on peut commencer le traitement.
Très bien. Alors, qui dit traitement dit bénéfice et risque. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une étude, il y a eu même plusieurs études épidémiologiques où le THM ostroprogestatif, on avait dit qu'il augmenterait le risque de développer un cancer du sein. Par ailleurs, plus le THM est prescrit sur longue durée, plus le risque de développer un cancer du sein est grand. C'est ce que disent justement ces études. Est-ce que ces risques sont toujours d'actualité aujourd'hui?
Tout à fait, ces risques sont là. Mais encore une fois, il y a une grande différence entre risque relatif et risque réel. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je dis à mes patientes? C'est comme quand vous partez à 120 à l'heure sur autoroute. Quel est votre risque d'accident? Il est, je peux pas tenir le chiffre, mais il est à, disons, 0,5%. Et ben, si vous allez à 130 à l'heure, bon, bien sûr, vous risquez de vous faire attraper par le radar, mais votre risque d'accident est un peu plus élevé. Le risque relatif peut être doublé, mais en termes de cas d'accident, il reste quand même relativement faible. Ces études sont, bien sûr, sont là. Qu'est-ce qu'elles disent? Le risque est multiplié par deux. Mais, il faut rappeler que le cancer du sein est une maladie très fréquente, maladie chronique, qu'une femme sur 10 a fait ou fera un cancer du sein au cours de sa vie. Et dans ces études du Lancet publiées en 2019, je suis sûr auxquelles vous vous référez, qu'est-ce qu'ils disent? Une femme sans traitement, les femmes en Europe, entre 50 et 70 ans, ont 6,5% je pense, de chances de faire un cancer au cours de leur vie, sans traitement, 6,3%.
Si vous prenez sans traitement hormonal.
Sans traitement hormonal, 6,3% des femmes entre 50 et 70 ans feront un cancer. Celles qui sont sous traitement, eh ben vous avez 8,3%. Donc le risque en valeur réelle est faible. C'est-à-dire qu'une femme sur 50 de plus va faire un cancer. D'accord? Deux femmes sur 100 vont faire un cancer de plus que les autres. Mais encore une fois, le cancer du sein est très fréquent. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut relativiser la chose. Il ne faut pas donner le traitement à tire-larigot à tout le monde, mais il faut le donner aux gens qui ont vraiment des souffrances. Aussi, quelque chose qui avait été rapporté par la WHI, c'est que les traitements découverts les cancers découverts sous traitement sont de meilleurs pronostics. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sous traitement, vous nécessitez une surveillance régulière. Un examen clinique tous les ans, voir votre
médecin
tous les ans.
Vous allez chez le médecin plus souvent.
Bien sûr. Oui. Vous faites une mammographie tous les deux ans. Donc, quand on découvre un cancer, à la rigueur, eh ben, il fait un centimètre. Quand vous n'êtes pas sous traitement, vous n'allez pas chez votre médecin et vous découvrez le cancer quand il fait 3-4 centimètres. Donc, déjà, il y a une manque de chance par rapport à ça. Donc, oui, il y a plus de cancers. Mais je vous dis, il y a un peu plus de cancers. Et de toute façon, vous risquez de faire un cancer. Et après, c'est à vous de juger. Est-ce que vous voulez prendre ce risque de cancer ou est-ce que vous voulez avoir une vie très invalidante par vos bouffées de chaleur, par votre ostéoporose, par vos troubles urinaires? Voilà, c'est ça la question.
D'accord. Alors, supposons, Hicham Alabastargi, qu'une femme ménopausée est sous traitement, donc THM, quels sont les symptômes qui devront faire que cette femme devra arrêter sans plus attendre le traitement en question?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, alors déjà les signes secondaires du traitement. Est-ce qu'il est trop dosé? Est-ce qu'elle a de la tension mammaire? Est-ce qu'elle est irritée? C'est-à-dire qu'elle est trop dosée, qu'il faudra éventuellement baisser la dose ou arrêter le traitement. Peut-être qu'il a été commencé trop tôt. Après, les signes sur lesquels on va arrêter, c'est essentiellement donc la découverte, bien sûr, de quelque chose au niveau du sein, et c'est le risque cardiaque avec le problème d'un problème cardiaque ou d'un
problème. Et les saignements utérins?
Les saignements utérins, alors, il est normal au cours du traitement d'avoir des saignements. C'est possible, ça dépend est-ce que vous prenez un traitement continu ou discontinu. Ce qu'on va faire là, à ce moment-là, on va examiner, on va faire une échographie endovaginale pour mesurer la taille de l'épaisseur de l'endomètre. Et si cet endomètre est fin, nous, on peut continuer. Si cet endomètre est gros, non, à largeur, il faudra faire des explorations plus poussées. Il y a autre chose, ça dépend de quand survient ce saignement. Est-ce qu'il survient dans la période d'arrêt? Justement, c'est l'hémorragie de privation, c'est ce qu'on veut. Parce que dans les traitements, on n'en a pas parlé, il y a les traitements sans règles, il y a les traitements avec règles. Donc quand ça survient après, à l'arrêt, c'est normal, c'est un effet attendu. Par contre, un cancer, un polype qui va saigner, une cause organique, elle va plus avoir tendance à saigner durant du premier au 25e jour du cycle. Et donc éventuellement, on va l'explorer. Oui, il faut l'explorer.
D'accord. Dernière question. Existe-t-il des traitements alternatifs au THM en cas de contre-indication?
Oui, il y a beaucoup de traitements alternatifs, notamment par exemple sur les bouffées de chaleur. Bon, il y a les phytoestrogènes. Ils sont pas très efficaces. Bon, il y a l'effet placebo, ça marche dans 40 à 50% des cas. Mais quand vous avez des bouffées de chaleur très invalidantes, il y a rien à part le traitement hormonal. Il y a aussi les graines de pollen, je crois que c'est le cérélis, il n'y a pas d'autre équivalent au Maroc, c'est qui sont assez efficaces sur les bouffées de chaleur. Mais sur autre chose, on n'en a pas parlé, c'est le traitement local par crème ou par transcutané a beaucoup moins de risques que les traitements hormonaux par voie orale. Et par exemple, sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause, on peut donner des œstrogènes par crème dans le vagin, et ça améliore vraiment considérablement la sécheresse vaginale et la sécheresse urinaire. Bon, pour l'ostéoporose, il y a les biphosphonates qu'on peut donner, mais le traitement hormonal reste le meilleur traitement sur l'ostéoporose. Et pour le cœur, juste pour terminer sur ça, c'est important de commencer un traitement hormonal tôt. À la rigueur, c'est une contre-indication de commencer le traitement hormonal après 10 ans de ménopause. Parce qu'à ce moment-là, quand c'est traité tôt, ça prévient la plaque d'athérome qui va entraîner les accidents cardiovasculaires. Alors que quand c'est commencé après 10 ans, la plaque s'est déjà mise. Et à la rigueur, le traitement va être plus grave. Il risque de décoller la plaque et entraîner des accidents cardiovasculaires.
Donc la décision, la consultation, elle devra se faire assez tôt.
Bien sûr. L'essentiel, je veux passer comme message, si vous souffrez de bouffées de chaleur, d'ostéoporose, de troubles, il y a des médicaments efficaces avec peu de risques. L'essentiel, c'est de consulter son gynécologue pour cela.
Justement faciliter la vie. Merci beaucoup, Chamel Abastage. Je rappelle que vous